6h-8h.
Matin première.
Medical Fat.
Il est 7h11, merci de vous réveiller avec nous. En cette fin d'année, 30 ans après sa création, 7 tomes parus et plus d'un million d'exemplaires vendus se poursuit le dernier chapitre de la plus grande tragédie romantique du 9e art, Sambre, celle que mes yeux ne voient pas, édité chez Glénat, best-seller dès sa sortie, encensé par la critique et par les professionnels, multi-récompensé internationalement. La série s'impose aujourd'hui comme un véritable classique et c'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Bernard Isler, bonjour.
Merci, bonjour.
Vous êtes scénariste et dessinateur de cette série Sambre. Alors pour le public qui ne serait pas féru de bande dessinée, qui vous ne connaîtrait pas, nul n'est prophète en son pays comme on dit, quel est l'objet de votre série, le sens de votre démarche? On est plongé dans l'univers d'un moment le plus dur de l'histoire de France, la Révolution française.
Oui, c'est une histoire de famille et de malédiction de famille, mais qui s'étale sur deux générations et qui donc traverse un peu l'histoire du 19e. Et la première génération, c'est Bernard et Julie qui sont... Bernard est un bourgeois et Julie presque une SDF, on a envie de dire. Et ils vont se rencontrer lors de la révolution de 1848. Et il y a cette forme d'utopie sociale à l'époque qui fait croire que le bourgeois et l'ouvrier vont pouvoir créer la deuxième république. Et puis ça va se terminer dans le sang. Et ce décor historique est un peu l'expressionnisme de leurs sentiments, puisque pour le reste, c'est un peu Roméo et Juliette qui, voilà, veulent mourir ensemble, le romantisme de l'époque. Et la tragédie est que Roméo meurt, mais pas Juliette. Et donc, ils ont des enfants. Et là, je suis en train de clore le deuxième tome. Le deuxième tome de la fin.
De la troisième trilogie.
Voilà, on va dire comme ça, c'est-à-dire que les enfants vont se rencontrer et les enfants sont aussi opposés que les parents. Ils ont eu des jumeaux, des faux jumeaux, et il y en a une qui est courtisane, qui fait sa carrière à Paris, et l'autre qui est élevée en province dans une forme de, avec une tante qui est folle, avec le poids de la famille, les fantômes, et on se dit comment deux faux jumeaux qui naissent à 1000 km de distance peuvent-ils se retrouver sans se connaître? Et pourtant, il y a une forme de fatalité ou de puissance de l'amour ou de lien entre les jumeaux qui vont se retrouver. Et sans doute que ça va mal se terminer parce que c'est un peu le thème de Sambre, la tragédie qui se transmet de génération en génération. Et voilà.
La malédiction. Alors, ce qui est assez intéressant, et c'est pour ça que je vous reçois dans Matin Première ce matin, c'est que votre œuvre, elle fait résonner l'actualité, hein, même si on part du 19e siècle. Il y a des résonances avec ce qu'on vit actuellement. Le contexte de la Révolution française, c'est un élément de la dramaturgie de Sambre. Quel parallélisme faites-vous avec la situation actuelle, par exemple avec le mouvement des Gilets jaunes ?
Il y a un parallélisme qui me semble proche, dans le sens que la Révolution de 48 est quelque chose qui est présente dans Sambre et qui commence en fait par presque un prétexte, une histoire presque incompréhensible à l'heure actuelle. C'est très difficile à expliquer, c'est vraiment la politique de l'époque. Mais il y a les étudiants qui vont monter des barricades, et puis voilà, il y a cette utopie sociale qui fait que les bourgeois croient pouvoir rejoindre l'ouvrier. C'est un moment donné où... La convergence des luttes, mais c'est le moment où il y a les plus grandes utopies. Le socialisme commence vraiment là. C'est le moment où le drapeau rouge va apparaître. C'est le moment où Marx va publier le Capital. Je crois que c'est en février 48, cela dit, à cette époque-là, il en vend 500 exemplaires. Mais il y a cette fièvre qui va être dans toute l'Europe et qu'on n'explique pas à ce moment-là et qu'on ne comprend pas. Et donc, on va aboutir à une république un peu sans le vouloir. Et hélas, elle va terminer dans le sang. Et puis, ça va faire naître l'avènement de Napoléon III. Et c'est un peu un cycle qui s'est reproduit plusieurs fois en France, puisqu'on voit déjà... qu'en 68, il y a quelque chose d'un peu équivalent, une question aussi presque ridicule au départ, qui va déboucher sur des barricades, une grande agitation sociale, avec quelque chose qui est très très proche, c'est que les révolutionnaires dans la rue en 1848 n'imaginent pas le pouvoir qu'ils ont et que le pouvoir est si fragile. Et en fait, quand Louis-Philippe s'en va, il s'exile au bout de 3 jours, il ne revient pas. Et la République naît un peu de ce vide sans qu'il s'y attendait. Et en 68, De Gaulle y part.
Mais Baden-Baden, et il revient. Ce qu'on a vécu là, il y a 10 jours, c'est l'expression de quoi, d'un pouvoir français fragile ?
Je pense qu'il y a, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a aussi autre chose qui passe, c'est un peu la liberté d'expression qui est en train d'exploser. On parle toujours de la mondialisation. La mondialisation, c'est, s'il faut donner une image, c'est Internet. On a ouvert la boîte à Pandore, tout le monde peut s'exprimer. Jusque-là, on va dire que tous les canaux d'information étaient hiérarchisés. Il fallait passer par certains spécialistes qui allaient hiérarchiser l'information. Telle personne pouvait parler de tel sujet. Aujourd'hui, sur Internet, n'importe qui peut s'exprimer, même avec un pseudonyme, et l'information d'un spécialiste et de quelqu'un qui n'y connaît rien est mise sur le même plan. Il y a une forme d'égalitarisme et qui, quelque part, est dangereux et qui ressemble au début de la... Par contre, de la Révolution française de 1789, où la première chose qui est, c'est l'explosion des journaux, et donc il y a une multiplicité de gens qui s'expriment, de couches populaires notamment, d'enragés, et surtout de fake news. Et à l'heure actuelle, dans le mouvement des Gilets jaunes, on constate qu'il y a une méfiance extrême de toute forme de spécialiste, quel qu'il soit. C'est pas seulement contre Macron, le gouvernement, etc. Non, c'est n'importe qui, les médias autant, et c'est comme si les réseaux sociaux allaient être plus vrais. C'est-à-dire qu'on va faire confiance à sa secte, quoi. On a l'impression de retrouver le club des Jacobins, mais version Internet, ou le club des Enragés, qui était quand même encore plus virulent à l'époque. Ah, les marats qui prêchaient la révolution dans la rue et la démocratie directe, ce qui est quand même assez inquiétant, on va dire, parce que ça peut amener énormément de désordre. Et je pense que, surtout, les gens qui souffrent et tout ne se rendent pas compte parfois que la démocratie est tellement, tellement fragile, et que s'ils l'imaginaient un peu plus humaine, ils freineraient peut-être. Ils imaginent tout le temps lutter contre le pouvoir, comme ça, mais le système, et personne ne sait qui c'est, à part que c'est eux.
Oui, voilà. Et on est tous partie prenante de ce système.
Exactement.
Bernard Riesler, dans votre œuvre également, dès l'amorce de vos récits, les femmes occupent les premiers rôles.
Oui.
Pourquoi ? Il y a 30 ans, vous étiez déjà dans le mouvement MeToo ?
Ma mère était féministe, et donc je suis né, je crois, dans une famille où les femmes étaient dominantes, et de toute façon c'était un combat, romantique à la base, et si on plonge dans la révolution de 48, c'est vraiment l'apparition des femmes, et le féminisme commence vraiment là. On va dire que le féminisme commence vraiment au 19e siècle, parce que apparemment au moment où il y a la société industrielle, on va commencer à genrer les boulots, et donc on se rend compte que là il y a une inégalité et tout, voilà. Donc il y a un vrai combat à mener, et puis voilà, moi ça m'a sensibilisé. Je pense qu'au fond de moi, je dois être une femme qui se cache sous un masque d'homme, et je dois avoir un côté, je trouve que le rationalisme qui domine beaucoup de choses dans la vie, dans la société, a besoin d'une forme d'émotion et de ramener des sentiments, et donc même en bande dessinée, où jusqu'à un moment donné on passait son temps à faire des histoires où des héros avaient un métier, là j'ai eu envie de faire des gens qui avaient des sentiments, et que donc ça, c'est plus féminin, quoi. C'est le combat des femmes.
Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos réflexions et votre œuvre. Je rappelle que ça s'appelle Sambre. C'est le 8e tome qui vient de sortir aux éditions Glénat. Merci beaucoup Bernard Riesler d'être venu en direct ce matin dans Matin Première.
Merci à vous.
Et nous partons au centre RTBF Mobile Info avec vous, Antoine Binamé. Ça se passe comment sur les routes ?
Eh bien écoutez, on a a priori un accident qui s'est produit sur le 40 qui relie Liège à Bruxelles au niveau de Berthem. Comptez une quinzaine de minutes supplémentaires. 15 minutes perdues aussi sur le 411 de Namur à partir d'Overijse. Sur le ring de Bruxelles, accident au niveau du tunnel Léonard, bande de gauche.